Bonjour, bonsoir. Vous écoutez Voix de Fait, l'émission du collectif Anarchiste la nuit, avec Nicolas,
Guillaume
et Farouko.
Hey, cette semaine, on va évidemment parler du 8 mars en général et à Québec. En particulier, on peut difficilement y échapper, la Journée internationale des femmes. Sinon, on va aussi parler, en fait, on a reçu des nouvelles d'éco-sociétés, plus précisément de la poursuite à laquelle ils font face et aussi... Tant qu'à faire, on va parler de quelques-unes de leurs parutions récentes. Faut pas juste se faire poursuivre. Sinon, ben toi aussi, t'as plein de choses.
Ben oui, on va parler entre autres du ministère de l'Éducation et des épreuves uniformes de français qui seraient peut-être transférées au privé par rapport à la correction. Ensuite, il y a par rapport au Light et Luc. En fait, c'est quelque chose qu'on vous avait déjà parlé là, par rapport à une lutte d'exécutif. En fait, l'association de la télé-université qui avait des problèmes. Voir comment ça s'est réglé. Puis ensuite, on va aller aux États-Unis, on va parler d'armes à feu et d'avortement.
Si jamais, par hasard, on a le temps, ce qui semble de plus en plus douteux, étant donné le menu chargé, on va peut-être parler un peu du Chili. Sinon, il va falloir que vous ayez sur notre blog. Évidemment, j'aurais beaucoup aimé parler de transport en commun. Parce qu'on a beaucoup parlé de transport en commun cette semaine, mais la mère, elle change tellement souvent d'idées que j'ai décidé de laisser faire. Parce que...
Essaye pas de le suivre.
Ça a pu nous dire bon sens. Ceci dit, il y a quand même un organisme qui s'est mis... En fait, une campagne qui s'est mise en place à Québec depuis un certain temps sur la question de la mobilité durable, parce qu'on sait, la mairie, la ville a ramené un comité de mobilité durable qui devrait arriver avec des solutions pour un système de transport en commun là, amélioré et un peu plus lourd. Et c'est ça, ce groupe-là est ressorti cette semaine sur la question est-ce qu'on doit prioriser le transport en commun en banlieue, est-ce qu'on doit le faire en haute ville, est-ce qu'on doit avoir un tramway et tout. Puis ils ressortent quelque chose qui est tout simple, mais qui devrait quand même... Enfin, les politiciens devraient s'en inspirer. C'est la politique partisane et la planification du transport en commun, ça va pas bien ensemble. Et il faut faire des études sérieuses basées sur les besoins des gens. Si on veut que ça marche, le transport en commun, faut mettre le transport en commun là où il y a des besoins.
Et dans le genre, pour passer le tramway dans les circonscriptions de l'opposition. Là.
C'est ça. Ouais. En tout cas, bref, Québec en mouvement. Si vous cherchez ça sur Internet, sur Google, vous allez sûrement tomber sur eux. C'est un peu la gang de vivre en ville, l'accès au transport viable. Et des gens qui ne me font pas plus triper qu'il faut, mais qui, sur la question du transport en commun, réfléchissent beaucoup et amènent des perspectives intéressantes. Donc, ça va être à suivre. Sinon, ben, on a de la musique spéciale.
Oui, musique 8 mars. Tous les groupes avec un lead vocal, entre guillemets, féminin, ce soir, ou cet après-midi, selon quand vous nous écoutez. Alors, on va commencer avec un des groupes préférés à Phébus, Jeunesse Apatride, qui nous chante « À ma révolution ».
Ça, c'est vrai que j'aime ça, par exemple.
Ah ouais, ben, celle-là est bonne.
Un jour avec toi, d'être dans
De retour à Voix de fait, l'émission du collectif Anarchiste la nuit sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Alors, on a des nouvelles de la poursuite contre Éco-Société. Alors, le cas Éco-Société a fait parler de lui dans l'actualité cette semaine. En effet, la maison d'édition écologiste... qu'on sait pas trop si c'est basé à Montréal, à l'île d'Orléans ou à Québec, mais en tout cas, bon. La maison écologiste vient d'apprendre que le procès qui l'oppose à la multinationale Barrick Gold va se tenir en septembre 2001, mon Dieu. C'est selon le communiqué qui a été mis pour l'occasion. On parle de 40 jours d'audience échelonnés sur 4 mois qui vont être nécessaires pour présenter des centaines de pièces déposées comme preuves, ainsi que pour entendre les différents témoins, témoins experts et plaidoiries respectives des parties concernées. Pour l'éditeur et pour tout le mouvement de soutien qui est derrière, il s'agit d'une poursuite Bayon. La maison d'édition et les auteurs du livre Noir Canada, soit Delphine Abadie, Alain Deneau et Williams Sacher, sont poursuivis pour un total de 11 millions, soit l'équivalent de 50 ans de revenus de l'éditeur, ce qui est quand même pas rien, pour la publication d'un essai critique sur les compagnies minières canadiennes et leur impact dans le monde, qui, selon Éco-Société, selon moi aussi, en fait, rencontre de questions qui sont... tout à fait d'intérêt public. Il y a beaucoup de juristes, entre autres le professeur Pierre Noreau du Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal, qui est le co-auteur du rapport McDonald's sur les poursuites Bayon, qui n'hésite pas à qualifier publiquement ces poursuites-là contre Éco-Société de poursuites Bayon de slap. Heureusement, petite lueur dans la noirceur, les 5 employés d'Éco-Société ont reçu la confirmation que leur assureur va prendre ses responsabilités. C'est-à-dire qu'il a reconnu son obligation de défendre la maison d'édition dans le cadre de l'action en responsabilité civile intentée par Barrick Gold. Malheureusement, cette défense-là s'est en pause, auteur du livre qui continue de devoir se débrouiller tout seul. Mais il y a quand même deux avocats qui ont été engagés par Éco-Société pour la maison d'édition. Même si Éco-Société devait gagner son procès, en fait ses procès, parce qu'il y en a deux, il y en a un deuxième en Ontario par une autre compagnie minière dont le nom m'échappe.
Banro.
Donc, oui, l'action de la multinationale va laisser des traces. Déjà, depuis 2 ans, les 5 employés de la maison d'édition, les auteurs de l'ouvrage, ont dû produire un très grand nombre de documents et d'engagements pour la partie adverse. Ils ont eu 17 journées d'interrogatoire hors cours et évidemment, ils ont dû préparer leur défense sous 2 juridictions différentes. Mais malgré ça, l'éditeur se fait un point d'honneur d'essayer de que ses activités soient pas trop perturbées par les procès qui lui pendent au bout du nez. Donc, c'est comme ça que des livres continuent à sortir. Il y en a même certains qui ont une excellente réception critique, en fait, ces temps-ci. Là, on peut penser au manuel de l'antitourisme dont tous les médias parlent en ce moment, qui est un bouquin d'Éco-Société. Et la maison poursuit sa mission. Puis, ben, tant qu'à faire, dans les nouveautés qui ont été publiées... On en a déjà parlé, Éco-Société s'est associée au nouveau cahier du socialisme, qui est une revue intellectuelle d'extrême-gauche nouvelle au Québec, en fait. Et il y a le numéro 3 de ça qui a été lancé à Montréal, qui est très intéressant, en fait, sur le thème de l'État, pouvoir et contre-pouvoir, donc... après avoir revisité la question des classes sociales, essayer de parler de la crise aussi. Les nouveaux cahiers du socialisme proposent dans ce numéro 3-là une réflexion sur l'État capitaliste, sur ses pouvoirs et les contre-pouvoirs qui s'y opposent. Et ce qui est intéressant, parce que c'est une perspective qu'on n'entend pas souvent dans la gauche, c'est que pour eux, il faut remonter à la racine des choses et remettre en question le principe de l'État moderne, qui est en fin de compte, là c'est vraiment les éditeurs qui parlent, le géniteur et l'enfant en même temps du capitalisme. Pour les auteurs, l'État n'est pas un outil neutre et encore moins une chose qui peut aller dans un sens ou dans l'autre. Il matérialise le pouvoir des dominants tout en étant la reine par excellence des luttes de classe. Et l'État capitaliste vit aussi aujourd'hui de grandes crises de légitimité, mais derrière les scandales, la corruption, les associations avec les criminels en cravate, c'est le système au complet qui est en cause, et pas seulement une poignée d'individus qui ont été assez maladroits pour se faire prendre. Alors, c'est une revue qui vient d'arriver dans les librairies, en tout cas moi je l'ai vue chez Pantoute. On trouve donc un dossier État pouvoir contre pouvoir, mais aussi des textes sur les enjeux internationaux, entre autres la montée d'un parti de gauche en Allemagne, Die Linke, c'est quand même assez surprenant ce qui se passe là-bas, et comme d'habitude, des chroniques, bilan des luttes, perspectives et notes de lecture. On disait qu'on n'allait pas juste parler d'Éco-Société pour ses procès, il y a aussi des livres qui sortent, il faut le dire. Ceci dit, si vous voulez vous solidariser avec la maison d'édition, savoir plus, faire un don, parce que les auteurs, comme on le disait en fait, compte seulement sur les dons pour assurer leur défense. Vous pouvez aller, il y a un site web qui a été mis sur pied pour ça. C'est SLAP avec deux P, slapp.ecosociété.org. Donc, c'est pas mal ça pour moi, pour Éco-Société. On va leur souhaiter de gagner. Ceci dit, septembre 2011, c'est loin, fait qu'ils sont encore prêts avec ça longtemps, mais heureusement, ils continuent de sortir des livres.
Espérons que ça va juste donner plus de temps aux gens pour les appuyer, en fait.
Oui, il faut.
Moi, de mon côté, en fait, c'est deux nouvelles qui ont trait à l'éducation. Première nouvelle qui a attiré mon attention, c'est par rapport à ce que le ministère de l'Éducation voudrait confier la correction des examens de secondaire 5, l'épreuve uniforme de français, dans le fond. Ils veulent confier ça au privé. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette épreuve-là, à chaque année, c'est corrigé par environ 150 personnes qui sont engagées pour un contrat bien spécifique là, pour corriger ces épreuves-là. On dit que ça en coûte 3,9 millions pour une période de 3 ans pour corriger ça. Puis par le privé, d'après ce que le syndicat, puis d'après ce que les soumissionnaires ont déjà mis de l'avant, parce que c'est en cours actuellement, il y a des soumissions qui ont été réclamées par le ministère de l'Éducation. Puis les soumissionnaires les soumissions varient entre 4,5 et 5 millions pour 3 ans. Fait que ce que le SPGQ, le syndicat des professionnels du gouvernement du Québec, déplore, c'est que c'est encore une fois un gaspillage de fonds publics, puis que l'objectif visé, ce serait encore de réduire constamment la taille de la fonction publique au profit du privé. Puis, ils disent, dans le fond, c'est une mission de l'État, puis on comprend pas c'est quoi l'affaire. Mais, tu sais, c'est sûr que c'est un peu étrange de dire qu'il va y avoir des gens qui vont se mettre de l'argent dans les poches par-dessus les élèves de secondaire 5 qui veulent, juste terminer, oui.
Oui, mais évidemment, il y a toute la question financière qu'il y a derrière ça, puis le choix douteux, parce que c'est vrai qu'il semble que ça va coûter plus cher. Il faut savoir aussi que c'est une claque contre les profs de cégep, une claque assez radicale, parce que les 150 correcteurs des examens du ministère, c'est des profs précaires des cégeps. Okay. C'est des gens, pas tous, il y en a qui font... Juste ça, il y a des gens qui sont des correcteurs professionnels puis qui, pendant une période de temps, vont faire la correction des examens du ministère. Il y a des gens qui font ça. Mais il y a énormément des gens à Québec et à Montréal, parce qu'il y a deux centres où il y a de la correction. L'immense majorité, en fait, c'est des jeunes profs qui arrondissent leur revenu annuel avec ça, parce que ils savent pas, tu sais, dans l'année, ils vont-tu avoir une session, deux sessions, trois sessions. Fait que c'est soit t'as un cours d'été, soit t'as ça, soit t'as les deux, même des fois, quand t'es trop serré financièrement. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de monde, en fait, qui perd ça. Et le ministère gardait des listes des gens qui avaient déjà corrigé, renvoyaient chaque année en disant « Est-ce que vous avez des disponibilités? » Donc, si dans ton cégep, ça va moins bien, t'as pas de contrat, tu sais, mais ça fait quand même plusieurs années que tu travailles, ben, tu pouvais toujours te rattraper avec ça.
Ouais, mais là,
ce
qui
sera plus possible de faire. Ceci dit, c'est une job complètement aliénante, puis il n'y a pas de bon sens, là, mais...
Mais la question, c'est, est-ce que ces personnes-là vont pouvoir aussi réappliquer dans les cas des entreprises privées qui vont avoir soumissionné? Puis est-ce que, dans le fond, les salaires vont rester quand même au même niveau qu'ils pouvaient être au gouvernement?
Ce serait surprenant.
Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, on parle ici d'une question de structure aussi, là, ce qui était défendu par la ministre.
Il veut se départir de la gestion.
Oui, exactement. C'est ça. Il veut se départir du fait que c'est compliqué de réengager ces personnes-là. Mais comme tu dis, il y a une liste de personnes qui le font assez régulièrement. Puis le roulement doit être, somme toute, pas si pire que ça, là, en tout cas. Puis il y a des gens qui sont déjà au ministère supposés payer à l'année pour essayer d'engager des gens. Fait que, mais bon.
Mais c'est vraiment moche, en fait, pour plein de gens là, qui doivent compter là-dessus, en fait, finalement, pour arrondir leur année. Là.
Mm-hmm. Ouais, on assiste à une décision purement idéologique, puis c'est une sorte de... c'est la garde de classe de l'autre bord.
Ça se là.
Et voilà.
Mon autre nouvelle éducation, c'est du côté d'une association étudiante. En fait, cet automne, c'est dans le fond au début de la session universitaire, là, il y a une assemblée générale qui s'était tenue le 12 septembre, au cours de laquelle l'association étudiante de la TELUC, la Téléuniversité, l'Université du Québec, qui est rattaché, qui était rattaché à l'UQAM, je pense que ça s'est changé cette année. Bref, cette association-là avait un exécutif élu, avait comme ces gens-là qui étaient qui représentaient les étudiants qui avaient été élus l'année dernière, puis que là, il y a eu une espèce de putsch par des gens qui sont associés de près, à la FEUC, à la Fédération étudiante universitaire du Québec, puis qui ont comme tassé l'exécutif qui était en place pour prendre la place, pour essayer de justement rapprocher l'association étudiante du giron de la FEUC. C'est ça, finalement, il y a eu une action en cours par les gens qui ont été tassés de là pour essayer de faire valoir les intérêts de l'association étudiante des étudiants de la ITLUQ dans ce cas-là où on disait que c'était seulement un move politique et que dans le fond les intérêts des étudiants seraient moins bien défendus. Finalement, c'est une entente hors cours qui est intervenue et l'ancien exécutif a été remis en place ce qu'on annonce, une espèce de petit speech politique de la part de Geneviève Brault, qui est la présidente, remise en place, là, qui disent qu'ils veulent remettre les priorités de l'association, comme la poursuite de la restructuration interne, le rattrapage des dossiers, notamment par rapport à l'évaluation du contenu des cours et de l'encadrement des étudiants et étudiantes, puis de la représentation sur les diverses instances, ainsi qu'une présence plus active au sein du mouvement étudiant, parce que c'est aussi un aspect qui était disputé à ce moment-là, parce que je pense que l'implication plus active au sein du mouvement étudiant, c'était dans l'idée de se rapprocher de la TASEC ou de l'AC, voire des deux, là, la TASEC étant la table de concertation des étudiants du Québec. Ce qui s'est créé autour de la CADEL puis du SSMU à McGill. Donc, c'est ça, bref, c'est un retour, plutôt une claque d'en face pour la FEUC, une de plus. Et c'est tant mieux pour la droite du mouvement étudiant.
Hey, tu sais qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? La 92e campagne d'affiliation du Cégep du Vieux-Montréal à l'AC.
Encore? Hey.
Oui. On leur souhaite de gagner.
Oui.
C'est pas 92, là, c'est une blague, là.
Mais ça arrivait
juste
même.
Que c'est un running gag, là.
Ouais. Même dans le temps que j'étais au CG, ça arrivait.
Oui. Le temps que j'étais dans le mauvais étudiant, 3-4 ans, ça a été suffisant pour en avoir 3 ou 4 à peu près. Fait que...
Ben, j'avais peut-être pas assez suivi ça. J'ai fait 2 ans et demi au Cégep du Vieux. Ouais, ça m'est eu rien qu'une fois pendant ce temps.
Mais c'est parce que moi, c'était suite à 2005 aussi. Fait
ah,
que
ok.
Il
y a un boost.
Ouais, c'est ça.
On est peut-être près de la dizaine. Et on est peut-être dur.
Bah, ils vont finir par affilier.
Ouais.
Si ça leur tombe. Bon, ben, on va continuer en musique.
Oui,
yeah, on va continuer dans un autre registre totalement. On tombe dans les années 70 avec celle qui se faisait appeler Sister Nancy qui nous chante Bam Bam.
Tell me say one thing, Nancy, if you understand. One thing, Nancy, if you understand. What make them a talk about me ambition? Say what make who them a talk about me ambition? Come me say some of them a ask me where me get it from. Just some of them a ask me where me get it from. I told them no, no, it's from creation. I told them no, no, it's from creation. Bam, bam, hey, yo. Tell them, me born and me grow in a Princeton 6. I not see right the Christian. genius lyrics. When you hear them, you sound like Christy Biscuit. You come in at the place and me say, well, well, slick. Hey, bum, bum, hey, yo. Sister Nancy, she a one in a 3 million. So bam, bam, say what time, bam, 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 say go, Sister Nancy, beg you go. I tell you, say go, Sister Nancy, beg you go. I'm away from me head straight down to my toe. I tell you, down, Sister Nancy, and they go. And some of them are up, Sister Nancy, make you bad so. Long down the list, Sister Nancy, make your bad song. He bam bam bam, who what a bam bam bam. He bam bam bam, bam bam bam. He bam bam bam, bam bam bam. Who what a bam bam bam. Hey, tell me say what a bam bam bam. This woman, I never trouble no one.
De retour à Voix de Fil, émission du collectif Anarchiste la Nuit. Alors, ben voilà, autour du 8 mars à Québec, en fait, il y a la Journée internationale des femmes qui arrive à grands pas, et avec ça, ben il y a les propositions d'activités qui succèdent et tout, fait que un bref aperçu des événements qui sont venus jusqu'à nos oreilles, mais bon, et aussi quelques autres propositions. Mais avant ça, peut-être juste revenir, qu'est-ce que le 8 mars, puis d'où ça vient, ne serait-ce que brièvement, pour en savoir plus, j'ai ressorti des Boulamites un texte que fut le groupe anarchiste Émile Henry avait écrit, texte d'introduction sur le sujet pour le 8 mars 2000. Et donc, puis ben ça tombe bien en fait, parce que cette année, dépendamment à qui tu parles, c'est le 99e ou le 100e anniversaire du 8 mars, en tout cas on est à peu près au 100e. Tout ça a commencé au début du 20e siècle, qui a été marqué par un climat de crise et d'effervescence sociale, et il y avait un mouvement des femmes dans plusieurs régions du monde, notamment dans le nord-est des États-Unis, et c'est le début d'une véritable affirmation, puis il y a comme une espèce de conjoncture entre d'un côté des mouvements ouvriers qui s'affirment et qui ressortent très fortement, et d'un autre côté des mouvements des femmes qui s'inscrivent là-dedans. Entre autres, New York et Chicago sont animés au rythme des grèves puis des influences anarcho-syndicalistes et socialistes à ce moment-là, qui ont des effets très importants sur les ouvriers, les ouvrières, et c'est à ce moment-là, entre autres, que parmi là des centaines d'autres leaders, il y a Emma Goldman qui émerge, il y a le travail des Wobblies aussi qui permettent au mouvement féministe, au mouvement ouvrier d'afficher des revendications et d'obtenir des gains qui s'inscrivent dans des luttes et qui dépassent un environnement qui est strictement législatif, et puis c'est l'arrivée en fait des milieux des femmes des milieux populaires aussi là-dedans. Et c'est de là qu'on tient entre autres le slogan du pain et des roses, qui depuis la marche des femmes en 95 est un slogan très populaire au Québec dans le mouvement féministe. C'est des anarcho-syndicalistes du milieu du textile au New Jersey qui ont sorti ça pour la première fois. En fait c'est les sections italiennes des Wobblies qui disaient qu'ils voulaient du pain et des roses, parce qu'ils disaient nous on lutte pour la révolution, on lutte pour une perspective libertaire. Alors on veut du pain, oui, on est en grève parce qu'on veut des augmentations de salaire, on veut la reconnaissance du syndicat. Mais on veut aussi des roses, puis ça c'était pour symboliser les conditions. Non seulement ils voulaient des meilleures conditions de vie matérielles, mais tout le côté immatériel nécessaire à une réelle libération, puis le genre de truc qu'on peut pas trouver dans les lois ou dans les avancées législatives. C'est vraiment, je disais, on veut aussi un changement des mentalités, puis on veut en fait que les ouvrières, et les ouvriers évidemment, mais bon, on parle de 80% de femmes dans l'industrie textile à ce moment-là, on veut que les ouvrières en fait puissent avoir une bonne vie. Une belle vie. Donc, on veut du pain et des roses. Et c'est dans ce contexte-là de protestation et d'activisme politique socialiste et libertaire et syndicaliste qu'est née la première Journée internationale des femmes. C'est pas venu du mouvement féministe mainstream, ou en fait pas seulement. Il y a un premier appel pour une journée des femmes qui a été lancée en 1908 sur l'initiative du Parti socialiste américain. Et le but, en fait, c'était ça a pris la forme d'une manifestation pour le droit de vote et la reconnaissance des droits politiques et économiques des femmes. C'est 2000 femmes qui ont marché sur Manhattan. L'année suivante, le 28 février 1909, il y a 5 manifestations de la Journée des femmes aux États-Unis qui sont organisées juste dans la région de New York. Et c'est en fait le Women's Day. Et ça a pris beaucoup d'ampleur en 1910 sous l'impulsion des anarcho-syndicalistes, des Wobblies, parce que c'est arrivé au moment où il y avait une grève générale impliquant entre 20 et 30 000 personnes du textile, à 80% des ouvrières, finalement, des femmes. Et ils revendiquaient un salaire décent, des meilleures conditions de vie, etc. Et quelques mois plus tard, après 13 semaines de grève qui ont vraiment été répercutés au niveau international, parce que, bon, à l'époque, les Wobblies étaient vus comme l'avant-garde de ce qui s'en venait comme syndicalistes révolutionnaires un peu partout. Tout le monde était bien impressionné, tant du côté des marxistes, parce qu'il y avait une faction marxiste dans les Wobblies, que du côté des libertins. La même année, donc quelques mois plus tard, à Copenhague, au congrès de la Deuxième Internationale Socialiste, il y a Clara Zetkin, qui est une socialiste allemande, finalement, qui propose de reprendre les protestations américaines et les transformer en journée internationale des femmes. Et c'est cette proposition-là qui a donné lieu au 8 mars. La première fois que ça a été célébré, c'est le 19 mars 1911. Puis il a fallu attendre 1914 pour que finalement il s'arrête sur le 8 mars, précisément. Donc, la proposition est adoptée en 1910, ce qui faisait beaucoup de gens que c'est le 100e anniversaire cette année. Mais bon, le premier 8 mars, qui a eu lieu un 19 mars, a eu lieu en 1911. En tout cas, bon, bref, toujours, tu sais, ça fait un siècle, finalement, que cette chose-là se place. Et comme on le voit sur les origines, ça a toujours été une question à la fois sociale, politique, féministe. C'est l'ensemble des conditions qui sont touchées. Outre l'aspect historique de la chose, quoi de mieux pour commencer la semaine du 8 mars qu'une petite action de solidarité internationale? Après tout, on parle de la Journée internationale des femmes. Et il y a les syndicalistes américains de Labor Start qui proposent quelque chose. Il y a Seher Tumer, une militante et en fait la secrétaire du syndicat de la branche santé sociale, les employés des services sociaux de la santé publique de Turquie, qui va probablement passer la Journée internationale des femmes en prison en 2010 s'il n'y a pas une solidarité internationale qui la libère. Elle est détenue dans une prison de type F depuis près d'un an, même s'il n'y a aucune accusation claire qui est portée contre elle, et son syndicat est convaincu que son arrestation est liée à ses activités dans le mouvement ouvrier et dans le mouvement féministe, et notamment sa participation aux activités de la Journée internationale des femmes en 2009. Ils sont sûrs que c'est à cause de ça, en fait, qu'elle est en prison. Et c'est pas le seul cas, là. C'est une syndicaliste d'origine kurde en Turquie, donc ça pose des questions là, différentes dans ce cas-là. Puis ça ressemble à un cas aussi d'une autre syndicaliste qui avait été accusé d'appartenir à une organisation terroriste, mais qui avait été libéré après 8 mois de prison à la suite d'une campagne de protestation internationale. Donc, ben justement, sur notre blog, ben y a, la madame, là, Tumer, elle va comparaître à nouveau en justice le 9 mars, mais bon, son syndicat et la centrale syndicale de son pays ont envoyé une lettre de protestation au premier ministre turc en exigeant l'abandon des poursuites et sa libération immédiate. Puis en fait, leur objectif, c'est de réussir à la libérer avant lundi, finalement, avant le 8 mars. Et donc, si vous voulez participer à la campagne, il y a sur notre blog, il y a un lien vers le site de la bataille socialiste et vers le site de Labor Start. Et Labor Start propose là une campagne de courriel, finalement. Donc, vous pouvez envoyer des courriels, tout est déjà cité, vous allez juste mettre votre nom et votre pays pour faire ça. Autre aspect international, tant qu'à faire, on peut aussi avoir une pensée pour les femmes iraniennes dont certaines ont lancé un appel international à la solidarité pour la Journée internationale des femmes 2010, parce qu'eux, ils disent qu'il y a en ce moment une révolution en Iran et que cette révolution-là touche tout particulièrement les femmes et que donc c'est important cette année de solidariser avec les femmes iraniennes. Il y a d'ailleurs un montage photo, là. Il y a une organisation qui s'appelle l'Organisation de libération des femmes d'Iran qui a sorti une espèce de photo-montage vidéo avec des photos de manifestations depuis le mois de juin 2009 où on voit justement beaucoup, beaucoup de femmes finalement dans la rue qui manifestent contre le pouvoir des mollahs. Et donc, ça aussi, c'est intéressant. Mais bon, ceci dit, à Québec, à ma connaissance, il n'y a rien d'organisé là-dessus. C'est surtout le Parti communiste ouvrier d'Iran et deux ou trois organisations de femmes progressistes iraniennes qui lancent un appel international à agir le 8 mars sur la question de l'Iran. Ceci dit, dans notre belle région de Québec. Qu'est-ce qui se passe autour de la Journée internationale des femmes? Ben, cette année, comme c'est arrivé souvent avec le 1er mai, le 8 mars, ça commence le 6. C'est-à-dire, samedi le 6 mars, vous en avez sûrement entendu parler sur les ondes ici hier. Nous, on en a parlé sur notre blog dès lundi. Les camarades d'Insis Quatel, des productrices d'une émission Sequoia qui passe le mardi, présentent la 4e édition de Sacoche et Mayoche. Un cabaret spectacle non mix à l'AJT. Alors c'est ça, c'est un show multidisciplinaire pour dans le cadre de la Journée internationale des femmes c'est ça, il y a toute l'information et le programme de la soirée sur notre blog Voix de fait avec un x et un s .blogspot.com samedi 6 à l'AJT dans Saint-Roch. Il paraît qu'on entend Sequoia relativement loin autour de la région de Québec. Donc, si vous êtes sur la rive sud, il y a des activités féministes dimanche, le 7 mars, au Patro de Lévis, au 6150 rue Saint-Georges. Il faut rentrer par la rue de la Visitation. Là, je vous dis ça tout en n'ayant aucune idée de qu'est-ce que ça peut représenter puis où ça peut être. Au programme, on parle de contes, de chants, de danse, de témoignages pour se rappeler l'histoire de la Marche mondiale des femmes. C'est une contribution volontaire à l'entrée. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez composer le 418-838-3733. Et il y a Québec même, le 8 mars, les organisations féministes officielles se mobilisent pour une marche et une soirée féministe. C'est la Coalition régionale de la Marche mondiale des femmes qui invite au lancement des revendications 2010 de la Marche mondiale au Québec. Donc, ça commence à 18h avec un rassemblement et une marche festive. On vous donne rendez-vous à l'église Saint-Sauveur au 215 rue des Aublats. Et c'est suivi à 19h30 d'une soirée féministe à l'ENAP au 555 boulevard Charest. D'après l'affiche qui circule en ce moment, la soirée est non mixte. Et donc, j'en déduis que la marche, elle, ne l'est pas. Et c'est ce qu'on m'a dit de plusieurs groupes populaires et groupes de femmes qui travaillent pour la manifestation Sinomix.
Mais t'as dit à l'ENAP?
Oui.
Wow! Je pensais pas qu'il y avait quoi que ce soit qui se passait à l'ENAP.
Ben, tu vas rire, mais c'est une des salles, une des meilleures salles et les moins chères pour des gros rassemblements au centre-ville. Le comité populaire a déjà fait une assemblée publique à l'ENAP parce que c'était moins compliqué que d'en faire une dans Saint-Jean-Baptiste.
Ah, c'est bien.
C'est vraiment spécial, là. C'est parce qu'ils ont, ils sont vraiment, vraiment, vraiment full equipped. Ils ont des auditoriums super cool. Puis si t'es pas une grosse compagnie qui veut faire de l'argent, tu peux les avoir pour relativement pas cher. C'est vraiment surprenant. C'est pas la première fois. Moi, j'ai vu des affaires du collectif La Ville que nous voulons, des trucs de la CSN, des trucs de... Mais bon, c'est toujours un peu bizarre, là, mais c'est à l'ENAP. L'ENAP étant l'École nationale d'administration publique. Donc, oui, si vous voulez des informations sur les activités de la Coalition régionale de la Marche mondiale des femmes, puis si jamais il fait pas beau aussi, pour savoir si ça a lieu malgré tout, le rassemblement de la marche, vous pouvez appeler chez Rose du Nord, le regroupement des femmes sans emploi du Nord de Québec, au 418-622-2620. Par ailleurs, il m'en reste trois, puis après ça, je vais te laisser aller avec le colloque. Ouais. Non, en fait, je vais en faire une, tu vas aller avec le colloque, puis je vais faire les deux autres.
C'est parfait.
C'est bon, ça. Par ailleurs, la station de radio que vous écoutez en ce moment, votre station de radio communautaire préférée, c'est qu'il y a organise une programmation spéciale pour le 8 mars. De 5 à 6, il va y avoir une émission en sortie enregistré devant public au café Babylone 181 rue Saint-Vallier-Est. Et selon le communiqué, il va y avoir Emilia Castro et Michel Dahiti. Et c'est pour fêter le 100e anniversaire de la Journée internationale des femmes et pour parler de la situation des femmes haïtiennes suite au séisme du 12 janvier dernier. Il y a aussi de la musique et de la poésie qui vont être au rendez-vous avec, entre autres, Mlle Rieuse et Alix Renaud. À 18h, la soirée va se poursuivre sur cette lancée-là en musique avec un micro ouvert et d'autres surprises. Ça va être aussi l'occasion pour l'équipe d'égalité genre féminin, ça c'est une émission féministe de Sequoia, de fêter la mise en nomination de l'émission pour le prix Égalité 2010 qui est décerné par le ministère de la Culture et des Communications et de la Condition Féminine. Évidemment, vous pouvez aussi écouter ça au 88.3. C'est qu'il y a. Donc, où vous présentez sur place, s'il y a de la place. Le Café Babylone, c'est pas super, super grand, mais en même temps, c'est quand même un espace public très agréable dans Saint-Roch, au 180 rue Saint-Vallier-Est. Il y a un colloque aussi le 8 mars, hein?
Ben, c'est pas le 8 mars, c'est la fin de semaine qui suit. En fait, le colloque a lieu les 13 et 14 mars. C'est un colloque intitulé « Perspective étudiante féministe », donc qui a lieu à l'Université Laval. Donc, c'est ça, c'est un colloque multidisciplinaire. Multidisciplinaire dans le sens que c'est féministe, mais ça peut être pris sous l'angle politique, sociologique, je ne sais quoi d'autre, là, en fait, là, peut-être littéraire, peut-être... En tout cas, il y a tout...
Les disciplines universitaires.
Exactement. Donc, tout plein de perspectives féministes qui vont être discutées lors de ce colloque-là. Pour plus d'informations, pour vous inscrire, l'inscription est gratuite. Il y a un 5 à 7 qui est le samedi, je crois bien, ou sinon il est le vendredi, mais au pire, on vous reviendra là-dessus la semaine prochaine, là, parce que je suis pas certain si c'est le vendredi ou samedi, le 5 à 7. Mais de toute façon, vous allez avoir toutes les informations sur le site Internet qui est Perspective, trait d'union étudiante, trait d'union féministe, sans accent, .org. Donc, vous allez trouver toutes les informations et pouvoir vous inscrire gratuitement à ce colloque-là.
Et tout ça se tient sur le campus de l'Université Laval.
Exactement.
Ça aussi, c'est impressionnant.
Oui.
Sérieusement, à l'Université Laval.
Mais...
c'est organisé par des étudiantes et des étudiants de
l'Université Laval. C'est une belle Laval, prison, donc. Tant qu'à moi, ça.
Ça dépend. Aussi au programme durant le mois de mars, là on s'en éloigne un peu, c'est pas le 8 mars, mais ça rapporte quand même. Le 17 mars à 18h, il y a le groupe Mère et Monde dans Limoilou qui organise une projection du film La domination masculine de Patrick Jean. Alors c'est gratuit, mais il faut s'inscrire. C'est le 418-522-5139 et il y a une halte garderie qui est possible selon les besoins. Vous appelez finalement parce que c'est un groupe qui travaille auprès des jeunes mères, et donc c'est pour ça qu'il y a tout un des haltes garderies dans leurs affaires. Mais bon, c'est un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps et qui parle notamment des masculinistes, qui fait le tour là, des mouvements radicaux antiféministes finalement. Aussi à signaler, il y a la projection du documentaire Femmes invisibles et indivisibles sur la place des femmes autochtones au Québec, qui va avoir lieu au Tam Tam Café au 421 boulevard Langelier, coin Charest, le 19 mars à 19h. C'était mes plugs de la semaine. Ceci dit, toutes ces informations-là se retrouvent sur notre blog, voie de fait avec un X et un S.blogspot.com.
Oui, justement, l'adresse Internet que je donnais tantôt est toute au pluriel. Fait que c'est perspectives étudiantes féministes. Fait que...
Sans peut-être essayer d'avoir une entrevue la semaine prochaine à ce sujet-là.
Faudrait essayer, oui, d'avoir une organisatrice avec nous. on va essayer de pousser là-dessus.
Si on en connaît une.
Ouais.
On sait jamais.
On sait jamais, peut-être même qu'elle nous écoute en ce moment.
Oh! La pression. Mais nous, on va continuer encore avec du vieux stock. On va l'écouter, Madame Phyllis Dillon, qui nous raconte la vie d'une femme dans le ghetto. Oh,
Domine exodi orationem meam. Dominus vobiscum et spiritus sanctus. Amen.
Vous écoutez, Voix de Fer.
Ah bah, c'était bon, hein.
Ah oh oui, mais c'était court.
Alors, de retour, cette semaine, on a appris qu'il y avait... c'est quelque chose qui est sorti cet automne, en fait, avec le gouvernement conservateur au niveau fédéral, en fait, avait lancé en grande pompe un guide de 63 pages à l'intention des immigrants et immigrantes nouvellement arrivés pour connaître leur nouveau pays, leur nouvelle patrie, le Canada. Et donc, ce guide-là, il est censé faire le tour de ce qu'est le Canada et de ce que dans le fond, quelles sont les valeurs, quelle est son histoire et quelles sont ses particularités et comment vivre dans ce pays pour s'y intégrer à merveille. Alors, c'est ça. Ce guide-là avait été révisé. En fait, là, on le lançait, mais c'était quelque chose qui existait déjà depuis 1995. C'était quelque chose qui avait été lancé à ce moment-là sous un gouvernement libéral. Puis, le guide révisé qui a été relancé en grande pompe, il ne contient pas de référence aux droits des gays et lesbiennes au Canada. En fait, ce qui a été retiré d'une première version qui avait été présentée au ministre Jason Kenney, c'est que, entre autres, on parlait de la première fois où ça a été décriminalisé au Canada, c'est en 1969, que la Charte des droits et libertés, elle interdit la discrimination basée sur l'orientation sexuelle et que les mariages entre personnes de même sexe sont légaux depuis 2005. Sauf que c'est ça, ce ministre conservateur Kenney s'était opposé au mariage homosexuel quand la question avait été débattue en 2005. Puis c'est lui qui a imposé le retrait de ces informations-là du guide là, avant qu'il soit publié.
Mais officiellement, il nie. Hein? Il dit que, selon ce que j'avais eu comme nouvelle, c'est que le gars, il se dit « Non, j'ai rien à voir là-dedans ».
Ben, en tout cas, c'est son sous-ministre Neil Yates qui proteste contre ça, qui dit que lui, la version qui avait été amenée au ministre, c'est celle avec le passage qui a été, le passage donc pas intégral comme je vous l'ai dit, mais en gros avec ces informations-là qui avaient été, qui étaient dedans, puis que ça a été imposé à lui que ce soit ça. En fait, ce qui a été donné aux journalistes du Devoir, c'est vraiment, plutôt la presse canadienne. Ben en fait, c'est une version préliminaire, les ébauches du guide et les documents internes qui ont lien avec ce document-là. Effectivement, ces passages-là étaient là. On pouvait lire « L'homosexualité a été décriminalisée en 1969 et plus récemment, les mariages civils entre personnes de même sexe ont été légalisés partout au pays en 2005 ». Puis dans la section « Vers un Canada moderne ». Puis dans la partie sur les droits et libertés, c'est ça. On parlait de droit à l'égalité, que les Canadiens sont protégés contre la discrimination basée sur la race, le sexe, l'origine, la religion et l'orientation sexuelle et l'âge. Donc, aucune de ces deux phrases a été retenue par le ministre. Puis ça a été imposé que ce soit tassé. Là, en fait, il y a des tractations, là, parce que toutes ces guides-là sont imprimés à genre 500 000 exemplaires, puis on peut plus les distribuer, tu sais, bien sûr. Puis c'est ça, il y a des groupes, entre autres le groupe Égal Canada, qui aura rencontré le ministre, puis qui veulent faire des pressions pour que ça se soit remis dans le guide, tout comme les partis d'opposition, mais on s'entend qu'avec un gouvernement aussi idéologique que ça, il y a des chances que tant qu'ils vont être là, ça risque de rester comme ça. Mais ce serait bien que peut-être les groupes en immigration s'organisent pour essayer de donner l'information aussi aux personnes nouvellement arrivées, ou en tout cas espérant que le rayonnement international aussi puisse faire quelque chose.
Idéalement, il faudrait forcer le gouvernement à émettre une brochure sur l'homosexualité.
Oui, aussi, ça pourrait effectivement être quelque chose...
Un 3-4 pages, là, que tu donnes les deux. Fait que là, ils se ramassent avec...
Ce serait encore mieux.
Ah, shit!
Oui, en tout cas. Fait que si on peut faire des pressions sûrement aussi auprès du ministère et tout ça. Fait que on va suivre ce dossier-là aussi pour vous. Ensuite, on va aller aux États-Unis. En fait, deux nouvelles qui ont retenu, trois nouvelles, mais deux qui sont plutôt relatées. Entre autres, présentement, il y a la Cour suprême qui se penche sur la libéralisation des armes à feu. Bon, vous allez me dire, aux États-Unis, c'est rien d'étonnant, la libéralisation des armes à feu. On sait bien que c'est un droit protégé dans la Constitution et tout. Sauf que ça reste que, au niveau des États, au niveau local, il peut y avoir des réglementations par rapport au port d'armes, par rapport à la possession des armes à feu. Puis c'est le cas dans plusieurs villes, là, entre autres, dans l'article que j'ai devant moi, c'est à Chicago, en fait, que tout a commencé pour cette requête en Cour suprême. C'est, dans le fond, un résident de Chicago qui voulait se défendre contre les dealers et les bandes qui voulaient donc s'acheter une arme à feu, mais ne le pouvaient pas à cause de la réglementation de la ville de Chicago, qui estime de son côté que c'est 700 environ le nombre de vies sauvées par année grâce à l'interdiction des armes à feu dans la ville. Donc, j'imagine qu'il compare là, avec les autres grandes villes de taille semblable, comme Los Angeles, New York. Et bref, la ville de Chicago refuse de mettre en cause cette réglementation-là, de remettre en question cette réglementation-là. Par contre, à ce qui semble à première vue là, d'une espèce de sortie préliminaire de la Cour suprême, il y a des bonnes chances que le deuxième amendement de la Constitution puisse s'appliquer aux États et que l'État fédéral pourrait imposer à chaque État, au même titre qu'à la liberté d'expression et celle d'exercer la religion de son choix, la liberté de port d'armes.
Oui, mais pour des villes, des grandes villes, ça va être une régression dans le sens qu'il y a le monde va avoir le droit d'acheter des armes. On parle aux États-Unis, quand tu vas dans un congrès ou un salon, t'achètes une arme cash, ils te demandent pas tes papiers, ils te demandent rien. Là. C'est « Hey, je vais te prendre tel gun avec telle balle, puis c'est fini là. »
Oui, exactement.
Il y a des villes où t'es forcé d'avoir une arme à feu. Est-ce que pour eux, ça va vouloir dire « Hey, enfin, si je veux pas de gun, je suis pas obligé de l'acheter. » Je sais pas, parce qu'il y a vraiment des États, qu'il y a des villes, que c'est dans les règlements qu'il faut que tu aies une arme à feu. T'es comme « Wow, je suis pas sûr, c'est super appliqué, mais quand même, quand tu y penses, tu pourrais te faire arrêter par la police parce que t'as pas de gun. »
Ouais, en même temps, j'avoue que je sais pas, il en parle pas dans l'article. Peut-être, effectivement, que ça a ce contre-effet-là,
minime, c'est juste c'est plus rigolo que d'autres.
De toute façon, si les gens ont déjà toutes leurs armes et l'habitude de la mettre comme au même titre que leur portefeuille le matin, je sais pas.
Chérie, t'as oublié ton 9 mm. Ah, shit!
Zut! Je ne serai pas en sécurité, non!
Oh, c'est pas grave, j'ai mon 38 dans les chevilles.
C'est ça. En tout cas, c'est ça. Bref, ce jugement-là est pas encore fait. En fait, ça devrait sortir au mois de juin. Sauf que là, c'est ça. La constitution actuelle par rapport aux juges et à leur tendance de la Cour suprême américaine est assez divisée. Là, en fait, plutôt à droite. Donc, 4 juges très très conservateurs contre 4 juges.
Mais il y en a un paquet là-dedans qui ont été nommés par Bush.
Ouais, c'est ça. Les 4 qui ont été nommés par Bush, puis il y en a un là, qui est comme un swing.
Un autre de ces. Ah, je suis non-partisan.
Ouais, il est non-partisan entre la droite puis la moins droite.
Entre la très droite puis la moins droite.
C'est ça. Fait que, c'est ça, lui, on ne sait pas encore exactement qu'est-ce qu'il pouvait appuyer. Donc, c'est ça, c'est encore un suspense qui va durer jusqu'au temps du jugement.
Mais ils sont un nombre pair.
Comment? Ils sont un nombre pair, ils sont 9. Sauf qu'il y en a 4 très conservateurs, 4 plus progressistes, puis tu as lui qui est dans le milieu. Mais en tout cas, c'est ça, le lobby des armes, c'est sûr, la NRA, qui est comme la National Rifle Association, serait très, très heureuse. Puis il y a quelques associations, dans le fond, qui font des campagnes anti-armes, qui essaie de tempérer en disant peut-être qu'il resterait quand même des aménagements possibles de certaines réglementations dans les villes, localités, etc. Mais bon, reste à voir. Puis bon, en lien avec ça, dans le même journal, dans le Devoir d'aujourd'hui, en fait, ce que j'ai... Je trouvais ça drôle parce que c'était comme une page à côté, un article sur la violence virtuelle qui amènerait la violence réelle. En fait, c'est une recherche internationale, là, en fait, une synthèse de quelques 130 études scientifiques qui ont analysé quelques 130 000 jeunes joueurs du monde entier. Qui, dans le fond, disent que ben plus tu es exposé à des jeux vidéo violents, puis plus ben tu risques d'avoir un comportement agressif, à la fois à court terme et à long terme, puis que ça augmente aussi les pensées agressives et diminue le comportement altruiste. Donc, tu as moins de compassion, tu as plus tendance à agir de manière agressive en réaction à n'importe quoi qui va t'arriver. Et En tout cas, c'est éloquent, puis il me semble que ça va de pair aussi avec le genre de valeurs qui peuvent être véhiculées par l'idée d'une société qui serait plus en sécurité avec des armes à feu et parce que t'es plus capable de tuer quelqu'un qui t'attaque que de lui parler ou que quelqu'un qui te fait peur plutôt que d'essayer de le comprendre, de plutôt tirer avant de parler. En tout cas,
prochain coup, s'il a la chance d'y repenser, il va y repenser deux fois avant de t'attaquer.
Ça dépend où je vais l'avoir tiré.
C'est ça.
Mais sinon, dernière nouvelle aux États-Unis. En fait, c'est une nouvelle campagne anti-avortement. En fait, les arguments très démagogiques, en fait, qui sont apportés par les organisations... anti-avortement, ce serait que, dans le fond, l'avortement, ce serait un complot contre les Noirs et que ce serait maintenant les enfants noirs seraient des... les enfants afro-américains seraient une espèce menacée. Donc, vu que les femmes afro-américaines se font beaucoup plus avorter que les femmes de toute autre communauté, en fait, ce serait 37% des avortements qui seraient pratiqués parmi cette communauté qui représente seulement 13% de la population. Mais bon, donc on dit il y a toute une théorie là, en tout cas foireuse là, qui dit que dans le fond ce serait à cause de la répression qui a eu lieu dans les années antérieures, ben, parmi les siècles avec l'esclavage et tout, que là le taux d'avortement serait plus élevé, puis que dans le fond c'est une espèce d'effet psychologique.
Ouais, la droite religieuse est allée se construire un discours en reprenant des faits historiques, mais en les réapprêtant à une nouvelle sauce.
Ben, c'est ça. On compare avec 1930 pour l'avortement aujourd'hui. Là,
wow.
C'est comme c'est sûr que l'effet est directement lié.
Oui, surtout qu'en 1930, c'était un, illégal, deux, dangereusement pratiqué, et trois, surtout pas comptabilisé.
Non, c'est ça, mais en fait, c'est pas tant sur l'avortement à cette époque-là que sur l'oppression qui avait lieu à cette époque-là, okay. L'esclavagisme, la discrimination, etc., qui avait lieu dans les années 30 et avant. Donc,
ouais, techniquement, il n'y avait pas l'esclavagisme en 1930.
Wow. Non, mais...
très technique.
Non, mais il parle okay, il parle avant aussi.
Très techniquement.
Ouais. Mais c'est ça, comme je dis, c'est vraiment très tiré par les cheveux là, comme raisonnement. Puis,
Ceci dit, il faut reconnaître qu'il y a des militants nationalistes noirs puis des féministes noirs qui disent qu'il y a effectivement une campagne génocidaire contre le peuple noir américain. Disons qu'ils se servent de crainte pour mettre de l'avant leur propre agenda.
Mm-hmm.
Les féministes noirs ne revendiquent pas évidemment la fin de l'avortement, mais.
Non, effectivement.
On parle de campagne de stérilisation forcée, puis de...
En tout cas, c'est douteux, puis c'est ça. Pour dire à quel point ils sont prêts à aller loin dans la démagogie.
Et nous, on va devoir quitter.
Oui.
Un peu plus, ils vont nous dire qu'ils sont contre l'avortement parce qu'ils sont antiracistes.
Bientôt.
Ouais, ben, c'est ça, oui.
Sur ce, passez une belle semaine sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. C'était Voix de Fait avec Nicolas.
Et Guillaume.
Et Farouko qui dit on va finir avec un cover des Beatles.
Mais,
ouais, mais là, c'est Marcia Griffith qui va montrer aux Beatles comment chanter.
Nobody ever loved me like. like it does. Oh, yes, it does.